Bonjour à tous, bienvenue à tous. Si je suis là devant vous pour la présidence, c'est parce qu'on m'a demandé et j'ai pensé au départ que je serais avec quelqu'un qui a de l'expérience. Moi, j'en ai pas. Mais voilà, je n'ai pas été avec une seule personne, j'ai été avec plusieurs personnes. Premièrement, Dieu était avec moi pour rédiger le papier pour cette présidence. Plusieurs personnes m'ont aussi téléphoné, m'ont envoyé des mails pour me dire deux, trois choses. C'est encourageant. Mais particulièrement, j'ai cette présidence avec ma demi, avec Chantal. Et c'est extraordinaire de pouvoir partager cette présidence avec mon épouse. Le pasteur Kurt Verragut, qui devait donc donner le message, est malade. Il m'a téléphoné hier en me disant qu'il ne pourrait pas être là et il a cherché un remplaçant et nous avons le remplaçant qui est ici, qui au pied levé va nous transmettre un message, le message de Dieu. C'est le pasteur Philippe Raymond. Il se présentera brièvement, donc, avant son exposé. Bienvenue au pasteur Philippe. À l'occasion des 90 ans du couple Armand et Eddie Heiniger, un message de souvenir et de reconnaissance sera donné par Sylvain et Armand après la scène. À la fin du culte, nous aurons un apéro en leur honneur organisé par Claire-Lise Serex. Une introduction maintenant par Chantal.
Alors, en lien avec le thème de la grâce qui va être présenté durant tout l'été, et la manière dont on peut être touché par elle, j'ai à cœur de vous présenter l'histoire de Jabez. Est-ce que Jabez vous dit quelque chose? C'est un nom dont on a souvent entendu parler, mais qui, c'est vrai pour moi, me rappelait quelque chose, mais ne me disait pas plus. Alors voilà, il y a deux versets dans toute la Bible qui nous parlent de Jabez. C'est dans 1 Chronique 4, versets 9 et 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors on voit que les 9 premiers chapitres du premier livre des Chroniques consistent en une généalogie qui contient plus de 600 noms. Et là, au milieu de tous ces noms, Dieu en a choisi un en particulier, celui de Jabez. Ces deux versets, seuls dans toute la Bible, ont rendu Jabez célèbre. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé, plus de 40 siècles plus tard, que ce nom serait toujours mentionné? Eh bien, c'est parce que la mère de Jabez lui avait donné ce nom, donc le nom de Jabez, qui signifie « souffrance ». Tout cela parce qu'elle l'avait enfanté dans la douleur. Donc, il aurait pu vivre toute sa vie en portant ce nom de Jabez et en portant sur lui ce stigmate qui veut dire souffrance. Mais il a eu foi en Dieu et il lui a fait une confiance totale et il a invoqué le nom du Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Donc il a eu envie de lutter contre ce nom qui lui avait été donné. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et il lui accorda même plus, puisqu'il est dit qu'il a été béni, puisqu'il lui a été donné d'être plus considéré que ses frères, même s'il avait au départ été considéré comme dans la souffrance. Et pour nous aussi, si on veut vivre une vie richement bénie, on doit oser se tourner vers Dieu et s'adresser à lui et oser voir grand. Paul nous dit aussi en Ephésiens 3, verset 20, « Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Et pour les enfants aussi, pour ceux qui se souviennent qui ont entendu l'histoire que Nicolas nous a racontée il y a quelque temps quand on était au signal de bougie, on voit qu'on peut lui faire confiance même dans les plus petites choses. Hein, là, c'était par rapport à son lapin ou son cochon d'Inde. Voilà, donc on voit que même pour les plus petites choses, on peut faire confiance à Dieu. Et Jabez avait compris que Dieu est infini, qu'il est au-dessus de toute malédiction et qu'il veut notre bonheur. Donc la conclusion de cette introduction, c'est que, voilà, c'est ça la grâce, oser passer par-dessus les éventuelles malédictions qu'on peut avoir. Dieu peut passer par-dessus tout ça.
Nous prierons. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, oui, tu es là avec nous. On est là avec toi et nous voulons te louer. On veut aussi te déposer tous nos soucis, tous nos problèmes. On veut être léger, léger pour te louer, pour te dire merci. Amen. Le groupe de louanges.
Bonjour, je vous invite à vous lever pour passer un temps de louange. J'aimerais commencer ce temps par quelque chose que je n'avais pas prévu de dire. Je suis très très mauvais à l'improvisation, mais du coup j'aimerais quand même remercier Dieu pour simplement pour ce cœur qu'il met dans en chacun d'entre nous. Enfin, il y a eu, comme l'a dit Jacques, il y a eu pas mal de petits pépins aujourd'hui au niveau de l'organisation des personnes qui devaient participer à ce culte. Et j'aimerais d'abord louer Dieu, le remercier pour cet esprit de service qu'il met en nous, en chacun, pour ma famille, Xavier, Prisca et Lauriane, qui ont accepté entre mercredi et hier soir de venir jouer avec moi pour éviter de me laisser tout seul. J'aimerais aussi remercier Sylvain Dupertuis, qui est derrière à la projection, qui a accepté 30 minutes avant le culte de faire la projection. Et à vous tous, parce que je sais que chacun d'entre nous, on a cet esprit de service, on a ce feu qui brûle en nous, et c'est que par la grâce de Dieu aussi. J'ai simplement prié avant de commencer. Seigneur, tu es à la fois un Dieu juste, miséricordieux, et aussi un Dieu de grâce. Nous voulons proclamer, vouloir marcher par ta justice, mais que nous avons désespérément besoin de ta miséricorde et de ta grâce pour nous approcher de toi. Nous voulons élever ton nom, parce que nous sommes coupables, mais tu nous as pardonné dans ta miséricorde et tu nous as offert la vie éternelle par ta grâce. Et c'est ce que nous voulons chanter ce matin. C'est ce que nous voulons chanter ce matin pour toi, notre Dieu. C'est que c'est par ta grâce seule, par ta grâce seule qu'on est racheté. C'est non par nos propres efforts, mais par ta grâce, ô Dieu d'amour et d'éternité.
Ta grâce ne fait pas. Dieu soit visité par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Car il Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Prosternons-nous devant le Fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit.
Vous êtes à reprendre place.
Voilà, les enfants, une surprise pour vous, avec Nicolas. Vous pouvez aller avec lui, mais juste avant, je vais prier pour vous. Oh oui, Seigneur, on peut te remettre tous ces enfants. Ils ont chanté, ils ont peut-être compris quelques paroles, qu'ils puissent grandir avec toi. Nous te remettons maintenant ces enfants avec Nicolas. Nous te remettons aussi Nicolas pour qu'il puisse s'occuper d'eux. Que tu protèges aussi chacun. Nous te faisons confiance. Nous les remettons en tes mains et nous t'adorons. Amen. Voilà les enfants, vous pouvez y aller. Alors, la lecture du pasteur Kurt Verragut est la même que pour le pasteur Philippe Raymond.
Alors, tout d'abord, dans 1 Pierre 5, versets 5 à 11, « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Et encore dans Jean 14, versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. »
Message au Seigneur. Seigneur, nous voulons nous remettre à toi. Nous voulons tous te remettre Philippe particulièrement. Il a un message à nous dire de ta part. Nous voulons te le remettre dans tes mains pour que tu le bénisses, pour que tu lui donnes tout ce dont il a besoin, tout le nécessaire pour nous transmettre ce message. Nous nous remettons tous à toi et nous te louons. Amen.
Amen. Heureux d'être avec vous et parmi vous ce matin. Je viens un peu comme la grêle après la vendange, ou est-ce que je tombe comme un cheveu sur la soupe, je ne sais. Bref, Kurt Vonnegut m'a téléphoné hier, enfin son épouse, et alors j'ai dit, je fais comme on le dit, au déboté, donc j'espère pouvoir répondre, dans le fond, à votre soif de parole, d'écoute, de ce que Dieu jamais ne nous dit, je dirais, de manière haute, à haute voix et péremptoire, mais plutôt toujours en un murmure, quelque chose qui est murmuré à notre oreille. Je suis pasteur à la retraite, ça se voit. Et si ça ne se voit pas, ce serait étrange. J'ai été, alors pour dire très brièvement, ces dernières années à l'hôpital cantonal, plus principalement en psychiatrie, puisque j'avais commencé il y a presque un siècle comme infirmier en psychiatrie en Grande-Bretagne. Alors l'Église a dit, pour finir en psychiatrie, avant que moi-même, j'y aille peut-être en tant que patient, on ne sait jamais, hein, n'est-ce pas ? Voilà. Et puis, j'ai été aumônier en différents endroits. Je continue d'ailleurs à pratiquer un peu et à faire des remplacements à la prison, puisque pendant environ une dizaine d'années, j'ai été aumônier de Chandelon. J'ai également été, mais là, il y a très longtemps, aumônier des écoles secondaires supérieures de Genève. J'ai été dans deux paroisses, celle de Coligny et celle des Ovilles. Voilà, pour dire très brièvement, je suis marié, j'ai la chance d'avoir un couple qui marche bien, ce qui n'est pas toujours le cas, qui est une bénédiction, et puis j'ai 5 enfants qui sont tous sortis du nid depuis déjà un certain temps. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des animaux domestiques, mais si vous remplissez l'écuelle de votre chat ou de votre chien de croquettes, il mangera dans l'écuelle. Il n'ira pas chercher à côté. En revanche, si vous avez la chance d'avoir un train de ferme, peut-être. Vous savez que les poules ont tendance à picorer de ci, de là, une graine là, une graine là, alors qu'il y en a peut-être un petit tas là. Non, on va un peu partout. Nous avons eu deux lectures et ce ne sont pas des moindres. Hein. L'épître de Pierre, si je vous demandais maintenant, comme dans une classe, allez, les yeux fermés, vous me récrivez ce qui a été dit. Je ne suis pas sûr qu'on aurait grand-chose peut-être à rapporter. Hein. Et puis alors, Jean, toujours très prolixe, très beau, mais enfin, où ça part, où ça arrive, là aussi, on picore, hein, on prend de ci, de là. Alors, je vais faire un peu la même chose. J'ai pas fait une étude détaillée et un propos construit de ces deux passages, que j'ai découvert d'ailleurs hier soir. Et alors, généralement, j'aime à dire qu'il faut du temps pour porter les passages bibliques. Des fois, c'est un mot, des fois, c'est un thème, un motif. On ne peut pas comme ça passer directement au bassinet et cracher les choses comme si on avait tout compris d'un coup. Non. Je me souviens d'un vieux monsieur qui avait, je pense, passé 90 ans, qui un jour, lors d'une méditation, d'une petite célébration, me disait à la sortie, oh, « Philippe, c'est étrange. Ce psaume que nous avons récité tout à l'heure, c'est la première fois de mon existence que j'entends dans ces mots que j'avais souvent lus, ceci ou cela. » Voyez ? Donc, il faut du temps. Et quand on dit du temps, vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, c'est dans les 6 mois. Parce qu'on commande les choses sur Internet, si ce n'est pas là dans les 3 jours, on rouspète. Et c'est normal. Alors on se dit, bah, Dieu va faire la même chose. Je lis un passage biblique, ping ! Du premier coup, j'ai compris. Ben, j'ai rien compris. Et si je crois avoir compris, c'est sans doute que je suis dans le faux. Il faut beaucoup de temps. Dieu est patient. Et nous sommes plutôt impatients. J'aimerais revenir, parce qu'il faut toujours revenir à un commencement. Alors, parmi toutes les pages de la Bible, en commençant de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, je doute que chacune et chacun, nous ayons très clairement à l'esprit tout ce qui s'y trouve. En revanche, le premier chapitre, les premiers versets, ça, généralement, ça s'est gravé en nous. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est en nous, si j'ose dire, serine cela depuis l'école biblique. Donc, ça s'est gravé. Puis, l'autre raison, c'est que très souvent, ça résiste. Hein. Ça résiste pour nous, Jean du 21e siècle, Jean formé par l'esprit positiviste des sciences. J'aimerais, est-ce que vous avez tous au moins une main ? Oui ? Alors, s'il vous plaît, que ce soit la gauche ou la droite, je privilégierais celle de droite. Vous savez que, vous l'avez souvent remarqué, n'est-ce pas, dans les Écritures, il est parlé de la main gauche et de la main droite de Dieu, ou d'être à la gauche ou à la droite de Dieu. Et alors, évidemment, parce que nous sommes habitués aux assemblées politiques, on se dit, ah ouais, la gauche, ça doit plutôt être socialiste, communiste, et que j'ai. Puis la droite de Dieu, ce serait tout ce qui est d'économie libérale. Tintin. La droite de Dieu, c'est tout ce qui est du domaine de la bonté, je dirais, maternelle, matricielle de Dieu. C'est sa bienveillance. Alors que la gauche symbolise sa justice. Alors voyez, si mon enfant fait des bêtises, il ne va pas avoir affaire à un juge qui lui dit « Ah, oh, mon enfant, tu as fait ça, tu vas me purger 15 jours de cachot !» Non. Il va savoir qu'il peut s'approcher de moi parce que c'est d'abord ma bonté, l'amour que j'ai pour cet enfant qui va l'emporter, ce qui n'empêchera pas que je le priverai de dessert, n'est-ce pas ? Mais c'est la bonté qui a passé avant la justice. Alors, voilà. Jouez sur votre main droite. Écoutez bien ceci que vous connaissez. Dans le commencement, hein, c'est le premier récit de la Genèse, Alors, la terre était était en désordre, sans sens, hein, et puis à la surface des eaux toujours menaçantes, planait le souffle de Dieu. Hein. Et voilà que Dieu dit. On ne dit pas Dieu fait, encore que, en hébreu, dire et faire, c'est une même chose. Mais enfin, Dieu dit. Alors attention, votre main droite, s'il vous plaît. Et vous comptez combien de fois le mot lumière revient. Je ne répéterai pas. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. On est à combien ? Bon. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour le premier ou premier jour. Je vais prendre au hasard. Madame qui avait des pantalons blancs, un blouse noir, combien de fois le mot lumière, à votre avis ? Ah oui, c'est à vous, madame, que. Combien de fois ? 5 fois. Bravo. Vous m'avez fait peur. Je voyais un pouce un peu rentré, je me suis dit, bon. 5 fois. Alors, évidemment, pour nous, chrétiens, voilà, c'est 5 fois, il aurait pu dire 6 fois, 7 fois, 10 fois, 1 fois. C'est la même chose. Les rabbins, qui sont beaucoup plus futés que les pasteurs, les rabbins, depuis le début, se sont dit, mais dans le fond, c'est quoi ces 5 fois lumière ? Ça doit avoir une raison. Vous voyez, les rabbins, contrairement aux chrétiens, ils sont toujours en train de gratter, de chercher, d'interroger le texte. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une ébauche de réponse ? Vous voyez que notre catéchisme est toujours à reprendre au commencement. Les rabbins nous disent la Torah, la loi, ce qu'on appelle la loi, mais ce n'est pas un beau terme la loi, parce qu'on pense code civil, patati patata. La loi, c'est-à-dire l'enseignement, la parole de Dieu. Il y a combien de livres dans la Torah ? 5. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà, voilà, nous disent les rabbins. Elle est là, cette lumière. Donc, ne jamais oublier que dans cette obscurité, les ténèbres, le non-sens, l'impossibilité de savoir dans quel sens aller, seule cette parole se dit de Dieu et lumière éclaire notre avancée ou notre marche. Et puis, vous avez le plus long des psaumes. Vous connaissez le plus long des psaumes ? Combien ? 119. Mais ils sont fantastiques ici. Ils connaissent tout. Le psaume 119, il est à... Je parlais des poules, hein. Il est comme les vaches, il est à ruminer. À ruminer. Alors, je ne peux pas vous demander de le lire le matin, le midi, le soir. Hein. Vous avez d'autres chats à fouetter. Mais au moins d'en privilégier des petits bouts pour chaque jour de la semaine. Et dans le psaume 119, au verset 105, il y a ce verset merveilleux. Ta parole, ton dit, ta Torah, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Et je viens de dire le mot chemin. Alors Jésus dit, je suis le chemin. Et nous, le chemin, On le confond souvent avec un synonyme qui est la route. Tout à l'heure, je vous invite à pique-niquer à Saint-Sergue. D'accord ? D'aucuns, parmi vous, vont s'y rendre par l'autoroute, parce qu'elle est bien claire, elle est bien visible, elle est bien manifeste, elle est bien droite. Ah ! Simplement, vous ne savez pas où elle mène, cette route. Mais elle est manifeste, elle est évidente. Alors on se dit, oh, c'est ça la route. En hébreu, il y a plusieurs mots pour dire chemin, route, voie, sentier. La route, c'est une chose. Le chemin, c'est généralement quelque chose qui est caché, qui n'est pas visible comme ça à l'œil nu. Autrefois, on disait prendre le chemin des écoliers, hein ? C'est-à-dire justement s'écarter de la route. Parce que le chemin, il est plus caché. Mais peut-être, c'est ce que nous disent les Écritures, c'est le chemin de Dieu. Il n'est pas évident, il n'est pas manifeste, mais il faut laisser à cette parole le soin de nous montrer, de nous éclairer, de nous montrer ce chemin. Or, vous le savez comme moi, quand on est en montagne, il arrive facilement qu'un chemin se perde. Et tout d'un coup, on se trouve, comme moi ici, oh, précipice, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai pris le bon chemin ? Ah, il y a un chemin beaucoup plus large. Est-ce que c'est ça ? Vous voyez, toujours, toujours, ces hésitations. Mais se laisser éclairer au carrefour difficile, précisément par cette lumière qui va nous montrer dans quel sens et où va le chemin. J'arrivais tout à l'heure de Berlin, à la gare Cornavin, et ne connaissant pas Genève, je suis sorti de la gare, et j'ai demandé à quelqu'un, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire le chemin pour aller à Meyrin ? Oh, la personne me dit, c'est simple, vous voyez, là, vous allez monter tout droit, vous allez ensuite tourner un peu à gauche, et puis, bon, bon. Ne connaissant pas Genève, je ne lui ai pas dit, prouvez-moi que c'est bien ce chemin. Qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'ai dû faire confiance à ce qu'elle me disait. Si elle m'avait dit, vous traversez le pont du Mont-Blanc, vous remontez le long du lac, je serais à Toulon en ce moment, et puis vous seriez dans la panade. Bon, alors, vous voyez, je dois risquer ma confiance dans la parole que la personne m'a donnée. Croire, ce n'est pas un machin qui vous tombe dessus sur la tronche. Oh voilà, je crois. Ah, tu ne crois pas ? Tu n'as pas de chance, dis donc. Mais moi, j'ai de la chance parce que je crois. Non, Tintin, c'est salade. Croire, c'est risquer sa confiance dans une parole donnée, une parole qui éclaire, une parole qui donne de discerner. Risquer sa confiance dans une parole donnée. Et c'est seulement quand je suis arrivé ici tout à l'heure, très gentiment j'ai été accueilli, j'ai dit, je suis bien à Meyrin. Oui, mais oui, voilà, j'ai pu rendre grâce. J'ai dit, ah, ben là, j'ai été, de quelque manière, récompensé d'avoir risqué ma confiance. Grâce, c'est un mot difficile, je trouve. Pendant les années où j'ai été aumônier de prison, je dirais que c'est là que j'ai le mieux perçu toute la portée de ce mot. Ça n'existe pas chez nous, malheureusement, ça n'existe qu'en France. Vous pouvez être condamné à perpétuité. Et un jour, peut-être, au bon vouloir du président de la République, il peut vous faire grâce. C'est-à-dire qu'il vous libère, qu'il vous ouvre à un avenir. Puisque vous allez partir d'ici peu à la plage, vous allez à la plage ? Non ? l'ombre d'un pommier, par exemple. Reprenez ce très beau roman de Victor Hugo, Les Misérables. Vous connaissez ? Non, pas le film. J'ai pas dit le film. J'ai dit le roman, vous l'avez ? Il existe en livre de poche, folio. Les Misérables, Victor Hugo, vous le lirez. Extraordinaire. Vous avez un bagnard, donc un condamné de très longue peine, qui s'appelle Jean Valjean. Et il est libéré du bagne. Évidemment, la sortie de prison n'est jamais facile. Il va son chemin, il a un passeport de bagnard. Vous voyez, si moi ici j'ai marqué repris de justice, vous dites, oh là 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 là, écoutez, j'ai pas le temps pour vous, hein, vous voyez, hein. Donc, Jean Valjean erre par les chemins. Puis un jour, il arrive dans une bourgade, on ne peut pas l'accueillir. Ça me rappelle quelque chose, vous avez un certain Jésus, vous avez connu Jésus Jésus, quand sa mère cherchait désespérément, dit au père, trois fois rien, juste pour pouvoir accoucher, on disait, oh non, 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 passez votre chemin, hein, d'accord. Et voilà que Jean Valjean est accueilli chez un brave curé qui deviendra, qui s'appelle Magloire, qui viendra plus tard Monseigneur Myriel. Bref, le curé l'accueille, et la bonne du curé se dit, on a une sanglante celui-ci, il faut s'en méfier. Bon, mais le curé dit, mais non, 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 entrez, entrez. On lui donne le gîte, le couvert. Puis Jean Valjean, le matin, avant de se casser, qu'est-ce qu'il fait? Il passe dans la salle à manger et il pique les chandeliers de l'argenterie, tout ça dans son sac, et il s'en va. Un peu plus loin, sur la route, il est arrêté par le policier Javert. Javert regarde dans son sac, il voit d'ailleurs son passeport de bagnard, il dit, mais t'as piqué ça où? Tu l'as volé, hein? Il le ramène, comme on voit, bon, ramène chez le curé, et il dit, voilà, je vous ramène le butin qu'il a volé. Et là, Monseigneur Myriel dit, et voyez, il ne va pas faire comme Javert, qui est pas méchant, mais c'est la justice. Hein? Il dit, il a volé. Donc s'il a volé, il doit retourner en prison. Monseigneur Myriel dit, non, 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 il ne les a pas volés, je les lui donnais. Et voyez, c'est là que tout d'un coup, cette parole fait grâce, ouvre un avenir pour Jean Valjean. Mais qui va devenir cet homme d'une bonté extraordinaire après? Voilà que ce geste de bonté lui a ouvert le chemin, a éclairé sa route. Voyez que de ce point de vue-ci, l'amour, ça n'est pas un peu plus de justice. C'est le contraire de la justice. Alors j'en viens quand même à la lettre de Pierre. Et peut-être que ceci, je l'espère, peut nous éclairer. Il est dit aux humiliés, Dieu accorde sa grâce. Dieu fait grâce aux humiliés. Alors les humiliés, c'est quoi? Ben, c'est justement ces gens qui sont, par eux-mêmes, peut-être condamnés, mais qui, à un moment donné, se reconnaissent comme pauvres ou pauvres pécheurs, peu importe, et qui vont laisser cette parole les orienter, les guider. Aux humiliés, Dieu accorde sa grâce. Nous sommes toujours, toutes et tous, de ce point de vue-ci, des humiliés, c'est-à-dire des tout-petits, des sans savoir, sans connaissance. Et il y a quelque chose de très beau, vous avez lu tout à l'heure le livre des Chroniques. Dans le deuxième livre des Chroniques, qui est le dernier livre de la Bible hébraïque, Le dernier verset est extraordinaire pour nous apprendre quelle est l'humilité. Le dernier verset dit cela. Que le Seigneur son Dieu, en parlant d'un fidèle, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Or, la dernière lettre en hébreu de ce « il monte », c'est ce qu'on appelle en hébreu un « lamed ». C'est la seule lettre de l'alphabet hébraïque qui monte au-dessus de la ligne. Vous vous souvenez, quand on apprenait à écrire, hein, il y avait une ligne qui était tracée, il fallait faire le P avec la petite jambe qui tombait en dessous. Ouais, d'accord ? Et bien là, dans l'alphabet hébraïque, c'est la seule lettre qui monte au-dessus de la ligne. Le verbe « monter » finit avec « lamed » qui monte. Comme pour nous dire, toute votre existence, vous serez et vous resterez des disciples, des élèves, des petits qu'il faut sans cesse élever, faire monter. Le mot de disciple a donné discipline. La discipline, le disciple élève, c'est justement celui qu'on doit élever. Vous voyez que cette parole qui est lumière, c'est elle qui va nous élever, qui va nous faire monter. Je ne veux pas être trop long, hein, monsieur Jacques, qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? Il ne faut pas déborder. Hein ? Oh, génial ! Vous me donnez encore 5 minutes ? Ah, ok, bon. Il est parlé de ce cher Thomas. Ah, je trouve Thomas un personnage très attachant. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout croyants, mais vous dites, oh, vous savez, moi, toutes ces histoires, je suis comme Thomas. Tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas toucher, j'y crois pas. Ouais. Mais Thomas, dans l'évangile de Jean, il y a quelque chose d'intéressant. On nous dit, Thomas, appelé Didyme, mais c'est complètement crétin ces traductions. Didyme, ça veut dire quoi ? Vous savez ce que ça veut dire, Didyme ? Bon, hein ? Vous n'êtes pas grec ? Ben non, ben évidemment. Didymus, oh Didymos, ça veut dire le jumeau. Donc, l'auteur de l'évangile de Jean, il s'est dit, c'est important que je dise à ces gens que Thomas, ça veut dire jumeau. Ah, oui, en hébreu, Thomas, ça veut dire jumeau. Si vous relisez, ça ce sera votre travail pour cet après-midi, d'accord ? Vous allez relire toute la Genèse, tout l'Exode. D'accord ? Bon, pas énorme, mais je vérifierai. D'accord. Thomas, eh bien, il a un frère jumeau. Qui est-il ? Ah ! Ce pourrait être un scoop si je vous disais qui est le jumeau de Thomas. Vous allez voir que ce jumeau, il est en fait beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez. Mais si vous relisez la Genèse, l'Exode, vous verrez qu'il y a souvent des frères, et souvent des frères jumeaux. Le couple de jumeaux le plus célèbre, c'est Ésaü et Jacob. Alors, vous vous souvenez, c'est assez cocasse, le texte biblique nous dit, quand ils sont nés, Ésaü est sorti le premier. Donc, dans la culture d'alors, c'était lui l'aîné. Oui, le premier né, c'est lui l'aîné. Et c'est à lui que reviennent toutes les pépettes, l'héritage, les honneurs, vous voyez, plus le second. Mais ça a lui sorti le premier, l'aîné. Mais le texte nous dit, Jacob qui venait derrière, tenait son frère au talon. Comme s'il avait dit, oh, tu ne vas pas me manger la priorité, c'est moi qui dois passer le premier. Et oui, effectivement. Vous verrez un peu plus loin dans le récit que Jacob, très futé, va dire à Ésaü, dis donc, ton droit d'aînesse, tu me le refiles. Bon, on n'a rien sans rien, vous êtes d'accord ? Moi, j'ai voulu acheter une télé tout à l'heure, qui traînait sur la rue, on m'a dit non, il faut payer 200. Bon, ton droit d'aînesse, ça se paye. Comment va-t-il payer son droit d'aînesse ? Un plat de lentilles. J'avais un de mes gamins qui aimait pas du tout les lentilles. Il disait, bah, moi, j'aurais jamais balancé mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Bon, mais il avait oublié qu'il y avait peut-être des lardons dedans, ce qui change tout. Hein. Bon, bref, voilà. Donc, il y a souvent cette lutte entre deux frères. Et c'est là que Thomas est intéressant. Parce que vous êtes, je suis un Thomas. Un Thomas, c'est-à-dire que j'ai à la fois un bon penchant, un bon côté. Moi, j'ai envie d'être gentil avec vous, de vous donner un verre d'eau. Mais quand je vois le petit collier que vous avez là, je vais m'arranger pour le piquer. Vous voyez, hein, on est toujours comme ça, fait de deux parties. Il y a de temps en temps le mauvais côté qui se promet et jette en premier, comme Ésaü. Puis il y a de temps en temps le bon côté qui est là, qui est derrière. Hey, hey, hey. C'est moi qui dois passer en premier. Voyez ? Est-ce qu'on va culpabiliser sans fin ? À se dire, est-ce que c'est tantôt l'un, tantôt l'autre ? Un peu comme au loto. Non. Parce que c'est là que cette parole qui fait lumière, qui oriente, peut faire grâce. C'est-à-dire que c'est ce regard que Dieu pose sur chacune et chacun de nous qui va nous permettre de privilégier notre bon côté. Et puis si le mauvais côté sort, ben, il n'y a pas de quoi se tirer une balle dans la tête. Parce que notre Père n'est pas un juge, mais un Père aimant qui toujours, toujours fera passer en premier sa bonté. Alors, je finis, ça sonne. Et je sais que quand les cloches sonnent, c'est le moment de se tirer. Écoutez bien encore et relisez aussi ce premier psaume, tellement beau. Littéralement, on dit heureux, mais c'est bien marchant. Bien marchant, l'humain, qui ne va pas au conseil des criminels, hein, donc du côté du mauvais penchant, qui ne s'arrête pas sur la route, vous entendez ici le mot, la route des fauteurs, mais qui a tout son désir dans la Torah du Seigneur, tout son désir, et surtout, qui la murmure, qui la rumine, jour et nuit. Le jour, c'est facile de faire certaines choses. La nuit, c'est beaucoup plus difficile. Rumination constante. Dans le jour, mais surtout dans la nuit. Pourquoi vous croyez que les moines et les moniales, le plus grand office, c'est pendant la nuit? J'ai eu la chance de vivre quelques semaines, de nombreuses années, dans le monastère de Patmos, en Grèce, et je trouvais génial parce que l'office commençait à 2h du matin, pour finir à 7h. Qui me laissait toute la journée pour aller voir des ouzeaux, manger des tomates sur le port. Vous voyez ? Et voilà, c'est dans la nuit que l'on veille, mais qui a son désir dans la Torah du Seigneur et la murmure jour et nuit. Oui, dit le psalmiste, Dieu connaît, ce qu'on pourrait traduire par Dieu pénètre. Le chemin des justes, alors que la route des criminels se perd. Alors, bonne route, que la lumière par laquelle Dieu vous fait grâce vous donne d'avancer résolument, parce que confiant dans la promesse de l'avenir que Dieu nous réserve. Amen.
Nous allons débuter la scène. En mémoire de c'est la même chose qu'en souvenir de. On a beaucoup de souvenirs de mémoire autour de nous, une statue, en mémoire de, un grand mur avec plein de noms, la dernière guerre, en mémoire, en souvenir. On a le général Dufour sur la place Neuve, en mémoire, en souvenir. Ici, là-dedans, il y a un souvenir. Pour moi, c'est un souvenir. Pour vous, c'est un souvenir ? Pas encore. C'est juste pas encore. Pour que ça soit un souvenir, c'est qu'il faut déjà le connaître. Si quelqu'un me dit « Essaye de dessiner la tour penchée de Pise », je n'ai jamais allé à Pise, je n'ai jamais vu la tour, comment est-ce que je vais la dessiner ? Il faut que je la voie, de mes propres yeux. Donc, ce souvenir, si on enlève ça, le voilà, ce souvenir, pas terrible. Un carré, tout noir. Pour un souvenir, il faut pouvoir le voir, il faut pouvoir peut-être, si c'est le souvenir d'une personne, parler avec cette personne. Si c'est le souvenir d'une chose, peut-être la toucher, peut-être voir en quoi elle est. Ça, c'est pas grand-chose. Si je la remets là-dessous, ben maintenant, si je vous dis souvenir, qu'est-ce que c'est ? Ben, vous savez que c'est un carré qui est noir. Mais si maintenant, je tourne et que je dis « voilà le souvenir », ça peut dire quelque chose de beaucoup plus. Le souvenir du Seigneur, le souvenir du Seigneur Jésus qui est mort sur la croix, ça c'est quelque chose. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, mais on le sait par sa parole. C'est le souvenir du Seigneur. Et si maintenant je cache ceci, eh ben vous allez tout de suite me dire, c'est un carré avec la croix. C'est le souvenir du Seigneur qui est mort pour moi à la croix. J'aimerais juste prendre dans la lecture de 1 Corinthiens 11, versets 23 à 28, juste deux courtes phrases, et on le reprendra après avec le pasteur Philippe. La première phrase, c'est « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et un peu plus loin, au 25, « Faites ceci toutes les fois que vous la boirez, donc la coupe, en mémoire de moi. » Si c'est en mémoire de quelque chose, c'est qu'on connaît. On peut prendre cette coupe, on peut prendre ce pain, parce qu'on connaît le Seigneur. Tu peux venir, s'il te plaît. Alors, je relis donc 1 Corinthiens 11, versets 23-28. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »
Ce pain que nous rompons est notre communion au corps du Christ.
De même, il prit la coupe aussi. De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant ceci, cette coupe, pardon, est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi.
La coupe pour laquelle nous rendons grâce à Dieu est notre communion. Au sang du Christ.
Je continue le verset 26, 27 et 28. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenant, le verset 27. S'il n'y avait que le 26 et 27, personne ne pouvait prendre la coupe. le pain. Personne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Heureusement qu'il y a le 28. Mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Sur les plateaux qui vont passer, peut-être une ou deux personnes aussi pour pouvoir faire le service. Sur le plateau, donc au milieu, les coupes oranges, donc c'est du jus de raisin. Au bord, en transparent, c'est du vin. Et puis la coupe. Le pasteur donc passera, vous n'avez qu'à lever la main et il passera vers vous pour donner la coupe.
C'est toi qui as reçu les coups que je méritais. C'est toi qui as tombé la colère qui me revenait. Et c'est par tes blessures que je suis guéri. C'est par ton sang que je suis aujourd'hui. Tes larmes qui m'ont touché, compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. C'est toi qui as couvert ma honte et ma nudité. C'est ton amour et ton pardon de ta vérité. C'est par ton sacrifice que je suis racheté. Sur la croix tu m'as offert ta liberté. Ce sont tes larmes qui m'ont touché, ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté. C'est toi qui as été trahi et abandonné. C'est toi qui as été brisé pour tous mes péchés. Et ce sont ces mêmes mains que les âmes ont percées, que tu as tendu vers moi pour me relever. Tes larmes qui m'ont touché, ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité.
Ce sont tes larmes.
se sentait l'âme qui m'a touché, ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité.
Père de toute beauté, comment te dire merci pour ce peu de pain et de vin, ta présence, la surabondance de ta présence, au secret de nous-mêmes et au milieu de ton Église. Loué sois-tu, Père de toute bonté. Amen.
Amen. Nous allons maintenant juste avoir le message de Sylvain et d'Armand. Et après le message, donc, un chant qu'on va chanter tous ensemble avec les Aniguères, le numéro 75.
Alors, 90 ans, Heidi Einiger a eu ses 90 ans au mois de juillet. Armand Einiger, qui est un petit peu plus jeune, c'est seulement dans quelques jours. Voilà, alors c'est mon plaisir de dire quelques mots à cette occasion. Surtout, pas pour faire la louange de personne, hein, mais c'est une illustration aussi de la grâce de Dieu, de voir les fruits de leur ministère. Et je pense que c'est une occasion aussi particulière quand on a nos cultes communs, parce que je crois qu'Armand Einiger a été quelqu'un qui a beaucoup apporté sur ce plan de la collaboration, aussi bien ici que dans la mission. Et personnellement, c'est aussi grâce à lui que je suis ici. C'est d'abord aussi grâce à Einiger qu'avec mon épouse à l'époque, en 1972, nous sommes partis au Laos, où Armand avait été missionnaire auparavant 17 ans. Et puis après, un service au Laos, interrompu par la révolution communiste dans le pays, un séjour en France à travailler parmi les réfugiés, Armand Einiger nous a appelés à travailler avec lui au bureau de Bellevue, où il travaillait, puis c'est ça qui nous a amenés en famille ici dans la région de Genève et dans cette église pour laquelle je suis extrêmement reconnaissant. Reconnaissant pour l'ouverture que j'ai trouvée dans cette église, reconnaissant aussi pour l'œcuménisme très riche qui a été vécu ici et qui est pour moi une conviction enracinée très profondément. Reconnaissance pour la compassion que j'ai pu éprouver dans cette église quand moi j'ai passé par l'épreuve douloureuse de la d'un couple brisé. Voilà, c'est... Donc voilà, beaucoup de choses sont liées à la présence d'Armand ici. Alors les Heiniger sont partis au Laos en fait en 1954. En 1970, ils sont rentrés en congé, en principe, pour repartir pour un prochain séjour. Et là, voilà qu'avec 5 garçons qui sont prêts à voilà, l'âge d'entrer dans les études, d'entrer dans la vie professionnelle, ils ont eu la conviction que leur chemin, c'était de rester ici. Mais pourquoi faire? Et là, il se trouve qu'ils ont eu un double appel, celui de Charlie Corté, qui a été le premier pasteur de l'église de évangélique de Merin pendant 2 ans, qui a arrêté son ministère pour entrer comme pasteur dans l'église protestante et qui a arrêté en même temps son service de qu'est-ce qu'on peut dire, c'était lui qui était le premier organisateur de la mission de nos églises, qui s'appelait Mission évangélique au Laos à l'époque. Et Armand était appelé pour reprendre ce poste par Charlie Corté, et en même temps, il était appelé par Charles-Abel Piguet, ils sont là, les Piguet, voilà, pour être pasteur dans notre église, et il a été, sauf erreur, 17 ans, pasteur de notre église. Donc il était à mi-temps, hein, à cette époque, il n'y avait un pasteur qu'à mi-temps, maintenant on a 1,5, bon, voilà. Et à mi-temps, il s'occupait de ce qui s'appelait la mission évangélique au Laos et qui est devenu le service missionnaire évangélique. Et ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est que ce travail qu'il a développé, c'est ça qui a fini par donner tout ce qui est aujourd'hui la structure de nos églises, avec un bureau à Saint-Pré, avec des systèmes de communication, etc. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des fruits de ce travail que patiemment Armand et Heidi ont fait à Bellevue. Puis Heidi a été aussi une personne qui s'est énormément investie à une époque où c'était pas trop bien reconnu le travail des femmes. C'était juste normal qu'elles travaillent à côté de leur mari. Elles étaient peut-être pas toujours reconnues comme il aurait fallu. Et elle a fait un immense travail aussi au service des réfugiés avec des ventes d'artisanat. Je crois que c'est utile de le rappeler. Alors les Heiniger, dans leur début de ministère ici, je crois qu'ils ont été aussi une cheville ouvrière de cet œcuménisme dont on bénéficie des fruits aujourd'hui, dans les contacts et les ouvertures qu'on a dans la commune de Merin. Par leurs contacts, la qualité des contacts avec les prêtres, avec les pasteurs, avec tout le monde. Et quand on relit un peu l'histoire, on s'aperçoit que ce n'était pas quelque chose qui a coulé de source, l'œcuménisme. Il a fallu le construire, il y a eu des cailloux sur le chemin. Alors on ne va pas raconter l'histoire en détail, il y a des documents qui ont été préparés, en particulier par Charles-Abel Piguet, qui sont très intéressants à relire à ce sujet. Il y a même eu un premier projet où on faisait une quasi-fusion avec l'Église protestante, et puis après ça... Parce que l'œcuménisme s'est élargi aux catholiques, pour les évangéliques c'était quand même assez compliqué. Voilà, donc c'est une histoire compliquée, mais qui s'est construite avec beaucoup de respect, de réflexion théologique aussi, et qui porte ses fruits aujourd'hui. Et les cultes d'été dont on bénéficie maintenant, ils ont commencé en 1972. Donc avant même que soit construit le centre paroissial œcuménique, qui lui a été inauguré en 1976. Alors, cet œcuménisme, je disais, Armand en a été une cheville ouvrière ici à Merin, mais il l'a aussi été en mission. Et je trouve ça remarquable, parce que les fruits de ça, on les voit maintenant. La principale personne qui est notre point de contact avec l'Église évangélique du Laos aujourd'hui, c'est le fruit d'un projet qui était lancé par les Heiniger à Savannah, dans la province de Savannakhet, qui était avec une association œcuménique, hein, une espèce de branche asiatique du Conseil œcuménique des Églises. Et vous savez, à cette époque, pour beaucoup de gens en Suisse et pour nos missions partenaires, c'était quelque chose qui était assez mal vu. Mais on voit les fruits aujourd'hui de cette collaboration, un demi-siècle après. Alors je crois que c'est aussi un enjeu aujourd'hui, c'est pour ça que je partage cette conviction, de continuer à maintenir cet esprit d'ouverture et de collaboration, pas seulement parce que c'est plus pratique en été, parce qu'on a moins de pasteurs et moins de monde, donc c'est plus pratique de se retrouver tous ensemble. Non, c'est beaucoup plus que ça, parce que je crois que c'est le cœur de notre mission d'Église, d'être des témoins de Jésus-Christ, du ministère de la réconciliation. La réconciliation, elle est au cœur du message. Et si on n'est pas capable, entre chrétiens, de le mettre en pratique entre nous, on est un peu à côté de la plaque. Donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu important, aussi bien pour notre mission ici à Mérin que dans la mission qu'on a dans le monde, de travailler à cela. Voilà, alors peut-être que je laisse la parole à Armand qui peut nous dire quelques mots. Tu lui donnes un micro.
Ma gratitude, ma reconnaissance pour ce long parcours et en particulier pour cette dernière phase dans cette église de Mérin. Nous avons beaucoup aimé et nous sommes toujours là. J'exprime beaucoup de gratitude pour ce chemin, le chemin à l'étranger, le chemin ici, tout ce qu'on a vécu pour construire ce que vous voyez aujourd'hui. Mais derrière tout ça, on a parlé de la grâce. Par la grâce de Dieu que tout ça a été vécu et a pu être établi. Merci.
Voilà, alors peut-être, je vais quand même prier. Seigneur, merci. Merci de tout cœur pour le ministère que tu as confié à Armand et à Heidi, pour les fruits de leur ministère, pour ta grâce parmi nous tous. Et nous te prions que ces fruits puissent perdurer, continuer. Et que tu les accompagnes aussi dans cette étape de leur vie, avec toute leur famille, leurs cinq enfants et tous leurs petits-enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te les confions. Amen.
Voilà, nous allons chanter donc le chant 75, ensemble avec les Aniguères.
Voilà, comme Sylvain fait tout, on va juste attendre d'avoir les bonnes paroles. Heidi et Armand, j'ai choisi ce chant à chanter ensemble avec vous, parce que c'est un chant de reconnaissance, parce que c'est un chant qui permet de laisser s'exprimer nos cœurs qui vibrent pour le Seigneur, puis qui lui sont reconnaissants de tout ce qu'il y a derrière nous, et puis aussi de tout ce qui nous attend. Ça va être encore plus beau. À peine croyable. On peut se lever, s'il vous plaît. Merci.
Thank you.
nous asseoir. Nous allons passer donc à l'offrande. J'aimerais juste lire le psaume 98, verset 8. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Apportez une offrande et entrez dans ses parvis. Juste deux personnes dans les deux couloirs.
Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent, tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps.
Prierons encore. Oui, Dieu est Père. Nous pouvons t'apporter quelque peu une offrande. Nous avons pu mettre dans ces sacs ce que nous pouvions mettre. Mais cette offrande, maintenant, tout ce qui était récolté, Seigneur, nous voulons te l'offrir. Il y a des personnes qui vont s'occuper de répartir cet argent. Nous te demandons qu'elles puissent avoir le discernement pour savoir où cet argent doit aller, quelles sont les priorités. Merci, Seigneur, parce que nous avons pu faire ce geste encore. Et nous voulons te louer, te dire merci. Amen. Il y a les annonces qui vont être faites par Chantal, Paul Robert et d'autres, si tu as des annonces.
Alors, peu d'annonces en ce dimanche de vacances. Donc, n'oubliez pas l'apéritif à la sortie pour entourer les Henniguer. Sinon, n'oubliez pas non plus mercredi prochain, donc mercredi soir 11 juillet, la première grillade ici dehors. Donc, tout est prévu pour les grillades. Vous avez juste à amener vos grillades, vos salades et un dessert, toujours très apprécié. Sinon, dimanche prochain, le culte au CEPOM à 10h. On me fait dire aussi que les objets trouvés, les objets recherchés se trouvent à la cuisine pour ceux qui ont des choses à venir chercher. Et puis, vous pouvez aussi directement vous adresser à Claire-Lise Serex. Et on vous rappelle aussi que la permanence pastorale est assurée durant l'été. C'est quelle heure? Alors, à partir de 19h.
Bonjour, je suis ici parce que Anne-Béatrice et moi, on voulait, pour ceux qui sont plus ou moins pas au courant, rappeler quelque chose par rapport à nos enfants Cédric et Gaël Chanson et famille, qui vont bientôt nous quitter et partir pour l'Afrique. La mission continue. Voilà, dimanche dernier, nous étions, Anne-Béatrice et moi, et beaucoup de monde, à l'église de la Colline, une église fraîche, donc sœur de la nôtre, dans laquelle Cédric et Gaël ont exercé un ministère pastoral pendant plus de 12 ans. Et il y avait la fête, là-bas à la Colline, pour fêter Cédric et Gaël et surtout manifester leur reconnaissance à cette grâce de Dieu qui a conduit ce ministère pendant toutes ces années. Cédric et Gaël ont été gâtés, enfin bref, comme on a dans ce genre de dimanche. Et nous-mêmes, nous étions heureux de vivre cela avec eux. Cédric et Gaël ont réfléchi à leur avenir et demandé à Dieu ce qu'il fallait faire, où devait aller, et ils ont été guidés pour un service missionnaire exercé pendant 3 ans, en tout cas, en Guinée-Conakry, à l'ouest de l'Afrique, dans la bulle de l'Afrique, tout à l'ouest. Et c'est là-bas qu'ils vont partir en famille avec Mathieu et Lélia d'ici le 13 septembre. L'avion est réservé pour le 13 septembre. Nous aurons l'occasion de les entendre puisqu'ils seront avec nous le 9 septembre, le dimanche 9 septembre. Et ce dimanche-là, une petite place leur sera faite afin qu'ils puissent partager ce qu'ils vont vivre avec le Seigneur, notamment, et en famille, là-bas, dans cette aventure, entre guillemets, parce que ce n'est pas une aventure, c'est quelque chose, un chemin qui est aussi tracé devant eux pour aller servir dans le cadre de la mission SAM Global. SAM Global, qui est une mission qui regroupe plusieurs missions. Enfin, tout cela est expliqué sur un petit papillon recto verso que nous avons affiché sur le tableau à l'entrée de l'église. Il y en aura peut-être d'autres à distribuer le 9 septembre. Voilà, je crois, c'est ce qu'on pouvait dire. Il va exercer pour Cédric un ministère d'accompagnement, d'aide aux personnes, aux anciens, aux conseillers, aux pasteurs, etc. Et pour Gaël, un ministère surtout, je crois, au niveau de l'aide aux femmes là-bas. Et puis, bien sûr, beaucoup de choses qui vont peut-être se dessiner, voilà, pour eux. Alors, on voulait simplement partager cela avec vous et vous dire notre joie et de les voir partir, mais aussi la petite charge, quand même, de voir partir toute cette famille là-bas pour 3 années au moins. Armand, la mission continue.
Abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.